Bon, il suffit de se projeter un mardi soir, disons au mois de novembre, sous une pluie battante.
Ah, le décor est planté.
Ouais, c'est vraiment pour l'ambiance. La scène se déroule dans une petite ville française, juste devant les grilles du Club des Étoiles, une association sportive locale. Et à l'intérieur, l'ambiance frôle vraiment la désolation.
Le genre de scène qu'on a tous vu au moins une fois, quoi.
Exactement. Le chauffage du gymnase fonctionne de manière, disons, très aléatoire. Les ballons de basket sont tellement usés qu'ils en sont devenus lisses. Et dans le petit bureau du fond, t'as quelques bénévoles au trait tiré qui fixent une pile de factures en retard.
C'est vraiment le cliché absolu du club au bord du gouffre.
C'est ça. La structure qui s'apprête à fermer ses portes discrètement à la fin de la saison, dans l'indifférence générale.
Et cette image crépusculaire, bah c'est le point de rupture inévitable de milliers de structures. C'est le moment précis où l'engagement humain, l'énergie des passionnés, ça ne parvient plus à masquer la réalité matérielle et comptable d'une association.
Ouais, le dénouement semble écrit d'avance. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'histoire prend une tournure fascinante si on fait une avance rapide de seulement 2 ans.
Seulement 2 ans?
2 ans, ouais. Le même gymnase, la même ville. Sauf que, bah, le chauffage fonctionne parfaitement. Les jeunes joueurs courent sur le parquet avec des maillots flambant neufs.
Ah oui, le changement radical.
Totalement. Le club vient d'ouvrir 3 nouvelles sections sportives. Le nombre d'adhérents a complètement explosé et l'équipe première enchaîne les montées en division supérieure. Le Club des Étoiles n'a pas seulement survécu, c'est devenu la référence absolue de toute sa région.
C'est une métamorphose totale qui défie presque la logique quand on connaît la vitesse à laquelle une association peut s'effondrer.
C'est clair. Et face à un tel redressement, le réflexe naturel, c'est de chercher un sauveur providentiel. On imagine l'arrivée d'un riche mécène local qui aurait signé un chèque en blanc, ou je sais pas, le recrutement surprise d'un ancien entraîneur professionnel tombé du ciel.
Alors que la réalité est souvent bien plus terne en apparence.
Exactement. Le véritable architecte de ce miracle, la personne qui a opéré cette bascule, s'appelle Claire. Et c'est une bénévole qui a tout simplement repris le poste de trésorier.
La fameuse héroïne de l'ombre.
Voilà. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique invisible. Comment une gestion financière, une discipline qu'on perçoit souvent comme une contrainte purement administrative, peut non seulement sauver une association de la faillite, mais la transformer en machine à gagner des championnats. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Je suis totalement partant. Le parcours de cette trésorière, ça illustre parfaitement le concept d'ingénierie financière appliquée au monde associatif. Mais pour mesurer l'impact de ces actions, il faut d'abord diagnostiquer l'hécatombe silencieuse qui frappe le milieu sportif.
C'est-à-dire, le point de départ était si catastrophique que ça?
Oh que oui. Quand elle pousse la porte du bureau pour prendre ses fonctions, elle ne fait pas face à une simple pénurie de trésorerie. Elle découvre un chaos structurel profond.
Le genre de chaos où rien n'est rangé nulle part?
C'est exactement ça. Les comptes sont griffonnés sur des carnets volants. Des subventions majeures auxquelles le club avait légitimement droit n'ont jamais été réclamées tout simplement faute de dossiers remplis à temps. Et un déficit béant se creusait dans un aveuglement collectif total.
Ah oui, la fameuse boîte à chaussures remplie de tickets de caisse froissés qu'on se repasse d'année en année. On a souvent l'impression que c'est du folklore associatif, mais en fait c'est un poison mortel.
Un poison foudroyant même. Et c'est corroboré par les données macroéconomiques. Si on s'appuie sur les rapports de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, publié en 2023, bah, la brutalité des chiffres balaye complètement nos idées reçues.
Qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres, Sam?
Bah, on pense souvent qu'un club meurt par manque de bénévoles, n'est-ce pas?
C'est ce qu'on entend tout le temps, ouais. Le manque de relève.
Eh bien, la première cause de mortalité est purement comptable. Près de la moitié des disparitions de l'association, 45% très exactement, découle directement d'une mauvaise gestion des fonds.
Attends, 45% des échecs liés à de simples erreurs de gestion, hein, c'est vertigineux.
C'est énorme.
Ça signifie qu'un club sur deux ne meurt pas sur le terrain, il meurt dans son bureau.
C'est la triste réalité. Et le diagnostic ne s'arrête pas là. On ajoute à ce contingent 20% d'associations qui périclitent à cause d'un manque de transparence financière.
Les membres ne savent pas où va l'argent, en gros.
Exactement. Ensuite, t'as 15% qui s'effondrent sous le poids de problèmes de gouvernance et de conflits de pouvoir interne. Il y a également 10% de structures qui disparaissent à cause d'une vulnérabilité stratégique fatale, la dépendance à une seule et unique source de financement.
Le fameux robinet unique. Et les 10% restants?
Le dixième restant englobe une multitude de causes diverses, qui vont des litiges juridiques ou baisses démographiques locales.
D'accord. Mais là, je me fais tout de même l'avocate du diable une seconde. Dans l'imaginaire collectif, pour quiconque s'intéresse au monde associatif, c'est le règne de la passion. C'est l'éducateur qui passe son mercredi après-midi sous la pluie avec les gamins. C'est le parent qui conduit le minibus le week-end.
L'engagement pur et dur.
Ouais. L'essence même du bénévolat repose sur le don de soi. Alors, est-ce qu'en focalisant autant sur les tableaux de bord, les audits et la rigueur comptable, on ne risque pas de bureaucratiser le sport et de tuer cette spontanéité joueuse ?
C'est un dilemme classique, je te l'accorde, mais qui repose sur une fausse dichotomie. La méthode employée ici prouve justement que la rigueur n'est pas l'ennemi de la passion. En fait, elle en est le bouclier.
Le bouclier, carrément.
Oui, parce que ce que beaucoup perçoivent comme de la paperasse fastidieuse, ça représente en réalité la fondation même de la confiance. Cette trésorière n'a pas débarqué en instaurant un système de contrôle de gestion digne d'une multinationale.
Elle a fait quoi alors ?
Elle a commencé par déployer des outils de bon sens, une clôture mensuelle des dépenses partagée avec tous et une vulgarisation de l'état des comptes lors des réunions.
Ah, ce qui change complètement la psychologie du bénévole, c'est clair.
Tout à fait.
Parce que quand la transparence est absente, c'est là que les rumeurs prolifèrent. On commence à se demander pourquoi on paye une cotisation, si c'est pour s'entraîner avec des ballons crevés, pendant qu'on soupçonne la direction de faire des dépenses inutiles.
Le mécanisme de dégradation est redoutable. Sans cette visibilité claire, les bénévoles les plus engagés finissent inévitablement par avancer des frais personnels qu'ils n'osent plus réclamer.
Et la frustration monte.
Exactement. La frustration monte, le doute ronge le comité directeur, l'absence de gestion engendre l'opacité, l'opacité détruit la confiance, et sans confiance, même la passion la plus brûlante finit par s'éteindre.
C'est très logique, vu comme ça.
Donc, l'intervention primaire n'a pas consisté à imprimer des billets de banque, mais ça stoppait net cette hémorragie de confiance.
Bon, le premier acte est posé. Le diagnostic vital est stabilisé, le club ne fermera pas à la fin du mois. Mais survivre n'est pas grandir. La gestion des coûts, c'est le budget de l'oxygène, quoi.
C'est une bonne façon de le formuler.
On ne transforme pas une association en référence régionale en se contentant de grappiller quelques euros sur la facture de chauffage ou en négociant le tri des bouteilles d'eau. Il faut passer d'une logique de rétention à une logique de création de valeur.
Et c'est là que ça se complique généralement.
C'est ça. Ce défi, ça me fait penser à la vulnérabilité d'un écosystème naturel. Si toute une forêt puise ses ressources d'un seul et unique point d'eau, la moindre sécheresse anéantit l'ensemble de l'écosystème, peu importe la robustesse individuelle des arbres.
La métaphore de l'écosystème illustre parfaitement la phase 2 de ce sauvetage. Et ça fait directement écho à ces fameux 10% d'associations qui meurent de leur dépendance à un financeur unique.
La fameuse perfusion.
C'est le syndrome très répandu du club mis sous perfusion par sa mairie, oui. Tant que les relations sont au beau fixe, l'argent coule. Le jour où une nouvelle municipalité décide de réorienter ses budgets vers la culture plutôt que le sport, l'association est purement et simplement rayée de la carte.
La sécheresse budgétaire foudroyante. Pour s'en prémunir, j'imagine qu'il faut construire de nouveaux points d'eau, diversifier les affluents.
C'est tout l'enjeu. D'ailleurs, le ministère des Sports et les observatoires de la vie associative théorisent cette résilience à travers un modèle de mix financier très spécifique.
Un mix idéal, ça ressemble à quoi ?
L'analyse des données sectorielles dessine l'anatomie d'un modèle économique robuste, qui se découpe en quatre piliers. Le socle, c'est environ 40% de subventions publiques émanant de la commune, du département ou de l'État. C'est l'ancrage institutionnel.
Ok, 40% de public. Ensuite ?
Le deuxième pilier, qui est crucial et souvent négligé, ça représente 30% de revenus issus de partenaires privés, donc les sponsors et entreprises locales. Viennent ensuite 20% générés par les cotisations des membres, ce qui valide l'adhésion de la communauté au projet.
Et il reste 10 ?
Voilà. La marge d'autonomie pure, les 10% restants, ça provient d'événements spécifiques, des buvettes, des tournois, des soirées de soutien.
40, 30, 20, 10. C'est marrant, ce n'est pas juste une répartition d'eau mouillée, c'est une architecture qui force en fait une association à ne pas vivre en vase clos. Elle doit maintenir des relations avec les politiques pour les 40%, séduire le monde économique local pour les 30%, satisfaire ses adhérents pour les 20% et faire preuve d'esprit d'entreprise pour les 10.
C'est exactement l'idée.
Mais du coup, comment une bénévole confrontée à des factures impayées réussit-elle le tour de force de déployer une telle stratégie, notamment pour capter ces fameux 30% du secteur privé ? Parce que c'est pas le plus facile.
Le basculement s'opère quand la trésorière enfile le costume de directrice du développement. Elle ne s'est pas contentée d'attendre l'ouverture des portails administratifs.
J'imagine qu'elle a pris les devants.
Elle a structuré des dossiers de subvention irréprochables pour consolider les 40%. Mais la véritable rupture stratégique s'est jouée sur les financements privés. Pour aller chercher des sponsors, elle a pris un risque calculé, organiser une grande soirée de gala.
Attends, organiser un gala luxueux quand on gère un club qui peine à chauffer son gymnase, c'est totalement contre-intuitif. Cela ressemble à une fuite en avant financière, non ?
Si on l'envisage comme une dépense de prestige, oui, c'est suicidaire. Mais elle l'a pensé comme un investissement commercial, une vitrine de fiabilité.
Ah, je vois. Pour rassurer.
C'est ça. Lors de ce gala, elle n'a pas seulement servi des petits fours aux chefs d'entreprise locaux. Elle leur a présenté des bilans prévisionnels, un plan de développement à 3 ans, des indicateurs de retour sur investissement en termes d'image.
Un vrai pitch de start-up, en fait.
Un patron de PME local n'a aucune envie d'associer sa marque à un navire qui coule. En revanche, face à une gestion aussi millimétrée, l'association devient un partenaire de choix.
C'est vrai que le signal envoyé est surpuissant. Le sponsor se dit que s'il gère ses milliers d'euros avec autant de rigueur qu'ils ont géré la crise, son investissement est ultra sécurisé.
C'est la garantie de sérieux qui fait ouvrir les portefeuilles.
J'imagine que les retombées de cette confiance retrouvée créent un effet d'entraînement massif derrière.
Massif est le mot juste. En 12 mois, le budget opérationnel du club a tout simplement doublé.
Doublé en un an?
Oui. Et les conséquences matérielles s'enchaînent. L'infrastructure est rénovée. Du matériel de pointe est acheté, et cette nouvelle vitrine attire mécaniquement 50 nouveaux adhérents, ce qui, au passage, vient naturellement gonfler la part des 20% liés aux cotisations. L'écosystème devient autonome.
C'est le principe d'une croissance endogène bien maîtrisée, quoi. L'attractivité génère de la ressource, qui elle-même finance une meilleure attractivité.
La boucle est bouclée.
Bon, par contre, nous touchons ici au nœud du problème. Et c'est le moment d'apporter un peu de contradiction. Une trésorerie florissante, des maillots impeccables et un parquet verni, c'est excellent pour le confort, on est d'accord?
Bien sûr.
Mais à la fin du temps réglementaire, un match de basket se joue sur des passes, des rebonds, de l'adresse et de la sueur. Le talent brut est la tactique d'un groupe d'humains affrontant un autre groupe d'humains.
La glorieuse incertitude du sport.
Voilà. Il est difficile de croire qu'un tableau de flux de trésorerie puisse mettre un ballon dans un panier. Est-ce qu'on peut réellement, avec des données tangibles, prouver que la gestion de l'arrière-boutique dicte la performance sportive sur le parquet?
Alors, l'impact de la structure sur le résultat sportif n'est pas une vue de l'esprit. C'est une loi empirique. Les travaux du CDES, le Centre de droit et d'économie du sport, publiés en 2022, ont décortiqué ce phénomène de fond en comble.
Et que disent ces travaux?
Leurs analyses démontrent une corrélation extrêmement forte entre l'orthodoxie financière d'une structure et ses résultats sportifs à moyen et long terme.
Vraiment?
Oui. Le phénomène est visible à l'échelle locale, mais pour en saisir la pureté mathématique, le sport professionnel offre un laboratoire d'observation spectaculaire.
Donc si on applique cette lentille analytique au sport de très haut niveau, j'imagine que les masques tombent rapidement sur la part de magie dans une victoire.
Le championnat de France de football de Ligue 1 illustre cette théorie avec une précision presque chirurgicale. Si l'on trace un graphique croisant la masse salariale d'un club, qui représente sa force de frappe financière, et le nombre de points accumulés à la 38e journée, les courbes se superposent presque parfaitement.
C'est impressionnant. T'as un exemple en tête ?
Prends le Paris Saint-Germain. Il évolue dans une sphère financière propre, avec une masse salariale dépassant les 600 millions d'euros. Cette surface budgétaire leur garantit, bon an mal an, une récolte tournant autour des 85 points.
Donc, la glorieuse incertitude du sport, le mythe du petit poussé qui renverse la montagne, ça s'efface complètement devant la puissance comptable sur la durée d'une saison.
Le hasard survit sur 90 minutes, lors d'un match de coupe, on l'a tous vu. Mais sur 38 journées de championnat, la loi des grands nombres et la profondeur de banc reprennent leurs droits.
C'est mathématique. Et derrière le Paris Saint-Germain...
Juste derrière ce pic stratosphérique, le groupe des poursuivants historiques, comme l'Olympique lyonnais ou l'Olympique de Marseille, affiche des masses salariales gravitant entre 110 et 120 millions d'euros. Leurs résultats sportifs s'alignent mécaniquement sur cet échelon, se stabilisant entre 67 et 70 points.
Et si on descend encore ?
En descendant plus bas dans la hiérarchie financière, un club historique comme les Girondins de Bordeaux, lorsqu'il opérait avec un budget resserré d'environ 40 millions d'euros, peinait inexorablement autour de la barre des 40 points, luttant souvent pour son maintien.
Et si on connecte ça à une vision plus globale ?
C'est une traduction implacable. La marche budgétaire détermine le plafond de verre sportif. Tu es littéralement en train d'expliquer que le classement final du championnat pourrait presque être imprimé par le directeur financier dès le mois d'août. C'est un peu cynique, mais les chiffres pointent dans cette direction, ouais.
Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre le pont cognitif entre ces multinationales du football et notre modeste club des étoiles. Que ce soit pour signer un contrat mirobolant avec une star internationale ou pour recruter un éducateur diplômé en division régionale, le moteur psychologique est le même, non? C'est la prévisibilité.
C'est l'essence même du lien de cause à effet. L'argent, en soi, ne marque pas de but. Mais ce que l'argent achète, c'est la capacité de se projeter. La rigueur financière instaurée ici a créé cette prévisibilité. Quand un club sait précisément de quoi demain sera fait, il peut proposer un projet stable à long terme.
Et c'est là que le fameux fichier Excel entre sur le terrain. Le fait d'avoir doublé le budget n'a pas juste servi à faire briller les bilans lors de l'Assemblée générale. Cette nouvelle marge de manœuvre, sécurisée sur plusieurs années, ça a permis de financer le salaire d'un entraîneur de très haut niveau, doté d'une expertise que le club n'aurait jamais osé approcher auparavant.
Logique. Un technicien exigeant ne signe pas dans un club qui risque l'insolvabilité le mois suivant.
C'est évident.
Et le recrutement de cet entraîneur, c'est le pivot de l'histoire. Il a structuré les entraînements, il a professionnalisé l'approche tactique, et les résultats ont suivi instantanément. L'équipe première a validé sa montée en division supérieure, et les sections de jeunes ont commencé à rafler des médailles départementales.
Donc les compétences purement administratives déployées dans un bureau sans fenêtre ont vraiment fini par créer des champions sous les projecteurs. C'est fou!
C'est la beauté de l'ingénierie financière bien pensée.
Ouais, mais cette mécanique de succès met en lumière une dernière dimension, sans doute la plus complexe, car elle touche à la nature humaine.
La politique interne, je suppose?
Exactement. Imposer des réformes d'une telle ampleur, restructurer les dépenses, exiger des justificatifs de la part de bénévoles historiques, tout cela requiert un poids politique colossal au sein de l'association.
C'est un terrain miné.
Un expert comptable de génie, s'il est isolé, se transforme très vite en bureaucrate détesté. On connaît tous la figure du trésorier, qui joue le rôle du gardien du temple, celui qui bloque systématiquement l'innovation avec l'argument couperet du « on n'a pas le budget ».
Ah, la fameuse force d'inertie. Et tu as tout à fait raison, l'isolement politique est le cimetière des bonnes réformes. Pour transformer les finances d'un club, il faut effectivement détenir le pouvoir de faire accepter ces changements, même lorsqu'ils sont impopulaires à court terme.
Comment on fait ça alors?
C'est à cet instant que le leadership devient une affaire de duo. L'histoire du Club des Étoiles ne se résume pas à sa seule trésorière. Elle s'écrit en tandem avec Julien, le président fraîchement élu. Un profil très différent, mu par une ambition débordante et une vision d'expansion pour le club.
On imagine très bien les frictions potentielles, là. Le président visionnaire qui veut conquérir le monde et la trésorière pragmatique qui serre les cordons de la bourse.
Le feu et la glace.
C'est généralement une recette pour un blocage institutionnel permanent, ça.
En temps normal, oui. Mais le secret de leur réussite réside justement dans la redéfinition de cette relation. Le président a apporté la direction stratégique, le fameux « où allons-nous ?»
Et elle a apporté la méthode.
Exactement. Elle a apporté l'ingénierie financière, le « comment y parvenons-nous sans nous écraser en vol ?» Au lieu de s'enfermer dans une dynamique d'opposition systématique, leur collaboration s'est muée en un véritable moteur d'innovation.
C'est-à-dire, dans la pratique, ça donnait quoi?
Face à un projet ambitieux du président, la réponse de la trésorière n'a jamais été un refus catégorique fondé sur la pénurie immédiate. Son approche consistait à analyser le projet et à proposer un séquençage. Elle disait, en substance, « Ce projet est excellent, nous n'avons pas la trésorerie aujourd'hui, mais si nous réorganisons tel pôle de dépenses et allons chercher tel partenaire d'ici 18 mois, nous pourrons le financer intégralement. »
Ah, c'est un changement de paradigme fondamental. Le rôle financier ne s'inscrit plus dans la censure, mais dans la construction d'un chemin critique vers la réalisation de l'ambition.
C'est la définition même d'un partenariat réussi.
C'est le duo parfait entre le moteur qui propulse la machine et le volant qui la maintient sur la route. Parce que, soyons clairs, sans la vision politique et l'aura du président auprès des membres et de la municipalité, les tableaux prévisionnels seraient restés lettres mortes, de purs exercices théoriques.
Et réciproquement, sans les fondations ultra-solides coulées par cette gestion rigoureuse, les ambitions de la présidence seraient rapidement désintégrées à la réception du premier appel de fonds inattendu. Cette alchimie démontre que la viabilité économique ne brise pas le rêve en fait, elle lui offre le temps et l'espace nécessaires pour se concrétiser.
En analysant cette trajectoire de la quasi-faillite au trophée, je trouve que la perception du rôle de financier ou de gestionnaire s'en trouve radicalement transformée. Nous sommes à des années-lumière du stéréotype du comptable acariâtre caché derrière des montagnes de dossiers.
C'est certain.
Le gestionnaire émerge ici comme un stratège de premier plan, le véritable copilote d'une entité en quête d'excellence.
Et la portée de cette démonstration dépasse d'ailleurs largement le périmètre du gymnase municipal ou du terrain de sport. Cette logique d'airain s'applique à toutes les strates de l'organisation collective.
À d'autres domaines, tu veux dire ?
Absolument. Qu'il s'agisse du lancement d'une start-up innovante cherchant à disrupter un marché, de l'administration d'une compagnie théâtrale ambitieuse, ou même de la gestion quotidienne d'une commune, le postulat reste invariable.
Les enjeux sont les mêmes.
L'ampleur des réalisations visibles, la hauteur et la splendeur de l'édifice sont toujours et inéluctablement dictées par la solidité et la profondeur des fondations invisibles.
C'est la ligne de démarcation absolue entre les projets qui s'épuisent dans des efforts désordonnés et ceux qui s'installent dans la durée pour laisser une empreinte. Cette exploration nous oblige à un regard neuf sur notre propre environnement, qu'il soit professionnel ou associatif d'ailleurs.
Un changement de perspective salutaire.
Totalement. Nous avons suivi une bénévole qui, armée de rigueur, de pédagogie et d'une simple feuille de calcul, a réussi à pacifier les tensions, à convaincre des partenaires économiques, à financer l'expertise technique et, in fine, à hisser tout un groupe humain vers la victoire sportive. Et cela soulève une réflexion assez vertigineuse à appliquer au quotidien pour tous ceux qui nous écoutent. Si la maîtrise des flux financiers détient une telle force de frappe pour métamorphoser le destin d'une communauté sportive entière, combien d'autres rouages prétendument ennuyeux, combien d'autres postes étiquetés strictement administratifs autour de nous, dissimulent en réalité le levier d'Archimède capable de bouleverser les trajectoires et de créer les prochains champions de nos propres organisations ?